Mardi Politique, en partenariat avec Libération et l'AFP.
Véronique Rigolet.
Bonjour à tous et bienvenue dans Mardi Politique. C'est le député Christian Jacob, le président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, qui nous accompagne ce soir sur RFI. Bonsoir Christian Jacob.
Bonsoir.
Bienvenue sur RFI pour vous interroger. Bernard Pellegrin de l'AFP et Violette Lazard de Libération. Bonsoir à vous deux. Alors,
bonsoir.
Nous reviendrons dans la deuxième partie de l'émission sur les élections européennes à 5 jours maintenant du scrutin, avec un Front National toujours donné en tête devant l'UMP. En deux mots, Christian Jacob, est-ce que on n'est pas là véritablement dans un scénario catastrophe? Le FN, le parti extrémiste, premier parti de France aux européennes, devant les partis de gouvernement.
Écoutez, si c'est le cas, c'est effectivement pas une bonne nouvelle pour l'image de la France sur la scène européenne et même sur la scène internationale. Alors, si on fait des comparaisons de chiffres, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. On retrouve à peu près notre score de la fois précédente, puisque on avait fait une liste d'union avec le Nouveau Centre. Là, l'UDI a choisi d'être séparé, d'avoir des listes séparées. Donc, ce qui fait que, bon, en gros, la dernière fois, on devait être autour de 28%, et là, on est à 29-30. Voilà, on est
dans... Doublé par le FN. C'est une première, hein, dans une élection nationale, c'est-à-dire... FN qui doublerait l'UMP et le PS.
Oui, enfin, je crois que l'événement, c'est effectivement l'effondrement du bloc de gauche. Nous, encore une fois, on aurait préféré des listes d'union. Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont défendu cette idée. L'UDI n'y était pas favorable. Et donc, on a donc des listes séparées qui font qu'effectivement, bien, quand on fait 30 à 2, là, on fait 28 et 8. Donc,
voilà. Et donc, le FN, c'est, et donc, où devancera.
On verra. D'accord. Attendons dimanche soir, vous savez.
On y reviendra plus longuement dans la deuxième partie de l'émission. Pour commencer, place au débat parlementaire, avec une UMP à nouveau sur le pied de guerre, en pleine croisade contre la proposition de loi sur la famille. 20 articles à étudier, 700 amendements déposés, dont 600 par votre famille, par l'UMP. La gauche dénonce une véritable stratégie d'obstruction. Christian Jacob, qu'est-ce qui vous chagrine d'entendre dans ce texte, hein, qui n'est de l'avis de tous pas révolutionnaire et qui vise tout simplement à simplifier la vie des familles recomposées?
Tout d'abord, on n'est pas du tout dans une stratégie d'obstruction. On a eu une demi-journée et une soirée de débat sur ce texte. Donc si on commence à parler d'obstruction...
600 amendements quand même, c'est pas rien, oui, il n'y a que 20 articles.
Savez, on a eu parfois des textes avec 10 000 amendements qui ont été déposés. Quand on a une stratégie d'obstruction, c'est ça. Là, ça n'est pas le cas. On est sur un texte qui est mal écrit et qui a été dénoncé d'ailleurs par la gauche, à commencer par le président de la commission des lois, qui à plusieurs reprises a voté des amendements avec nous en commission, considérant que nous sommes sur un texte qui n'a pas été écrit correctement, qui génère beaucoup plus de problèmes qu'il n'en règle en réalité, et où on met en permanence l'enfant, en quelque sorte, entre le marteau et l'enclume, ou en situation d'arbitrage entre les parents biologiques, les beaux-parents auxquels on veut donner un statut, et le juge, c'est-à-dire tout judiciariser en permanence. La préoccupation pour nous, ça a toujours été la même ligne, c'est le droit de l'enfant avant le statut du beau-parent et le renforcement des droits du juge.
Bernard Pellegrin.
Malgré tout, bon, le nombre de familles recomposées ne cesse de croître en France, comme dans tous les pays développés. Vous revenez aux affaires, vous vous intéressez pas du tout au statut du beau-parent, vous laissez absolument tel qu'il est, sans du tout essayer de faire évoluer la législation à l'égard de ces familles qui, encore une fois, sont de plus en plus nombreuses.
On avait travaillé sous la précédente législature sur un statut du beau-parent. C'est Nadine Morano qui avait travaillé sur ce sujet lorsqu'elle était en charge de la famille. Moi, j'ai toujours été assez réservé là-dessus. Je pense que ce qui doit prévaloir, c'est effectivement le droit de l'enfant et privilégier, eh bien, à chaque fois qu'on le peut, des accords par la médiation, sans vouloir faire intervenir en permanence le juge. C'est quand on nous parle, par exemple, du mandat d'éducation quotidienne, du mandat express des deux parents pour les actes qui relèvent de la vie quotidienne ou des décisions importantes. Au-delà des termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, très concrètement, sur un changement de domicile. On prend un cas concret d'une personne séparée, enfin divorcée, qui a une famille avec deux ou trois enfants, qui décide de changer, qui décide pas de changer de domicile, mais qui est mutée, qui est dans l'administration, qui est mutée. Eh bien, pour pouvoir accepter sa mutation, elle devra avoir l'avis conforme des parents biologiques, alors que c'est elle qui a la garde. Et imaginez qu'elle soit, elle soit
ça,
dans une famille.
C'est pas du tout dans l'intérêt de l'enfant pour vous.
Ben, si vous avez par exemple deux parents, lorsqu'un enfant, un parent a la garde de l'enfant, vous pouvez avoir dans cette famille des enfants nés de deux lits différents. Donc il faut que tous les parents biologiques des différents enfants, ou alors on sépare la fratrie. Enfin, on est sur des règles de. J'irais de bon sens et d'accord normal que doivent trouver les adultes entre eux, et ça n'est pas en créant ces statuts, en obligeant à des déclarations, à des autorisations express qu'on va résoudre les choses. Bah, aller chercher dans les actes de la vie quotidienne, aller chercher les enfants à l'école, ça se fait naturellement pour le beau-parent, et là dire que ça doit relever d'une décision judiciaire, enfin. Je veux dire, on arrive dans quelque chose d'invraisemblable, de judiciariser à tout prix et d'avoir le seul souci du statut des adultes avant de penser tout simplement aux décisions de bon sens consensuelles que, pour l'intérêt de l'enfant, souvent les parents qui ont un peu de bon sens arrivent à trouver.
En fait, la meilleure chose serait de rien faire.
Je pense qu'il ne faut pas chercher à judiciariser à tout prix. Je ne dis pas qu'il faut nécessairement rien faire, mais on voit bien que là, au fur et à mesure qu'on avance sur le texte, et c'est l'intérêt du débat parlementaire, on va pas s'offusquer d'avoir passé une après-midi, une nuit, ça mérite de peut-être passer encore 3 ou 4 jours sur un texte comme celui-là, et je crois qu'il n'y a rien de choquant de réfléchir, parce que à chaque question qui est posée, on voit bien qu'on soulève un nouveau problème, tout simplement parce que le travail en amont n'a pas été fait correctement et que ce texte est mal ficelé.
Il y a aussi, on a l'impression, ce sentiment à droite que, eh bien, le gouvernement réglemente trop la vie privée des Français. On entend même Luc Chatel dire, voilà, le gouvernement met de l'huile sur le feu. Tout ça, ce sont des sujets sensibles.
Je suis assez d'accord avec Luc Chatel sur ces sujets de société. Il faut prendre vraiment le temps de la
toute
la réflexion.
L'Europe du Nord a déjà légiféré là-dessus. Je veux dire, les pays scandinaves, l'Allemagne, la Hollande, oui. Toute l'Europe du Nord a déjà pris des dispositions.
Je suis pas sûr
sur
que tous les pays,
sujets.
Mais un certain nombre de pays, oui. Que vous avez cités.
La France n'est pas à la pointe de la révolution familiale.
Mais ça, il ne s'agit pas d'être à la pointe de la pointe. Il s'agit de ne pas faire n'importe quoi. Et de ne pas générer davantage de problèmes que de solutions qu'on pourrait trouver. Encore une fois, moi je pense qu'à partir du moment où on considère, et dans la plupart des cas, lorsqu'il y a séparation, Dieu merci, les parents biologiques ont le souci de l'intérêt de leur enfant. Et arrivent à trouver des solutions équilibrées. S'ils n'y arrivent pas, ils peuvent avoir accès au juge, bien évidemment, mais... Essayons de rester dans ce champ-là plutôt que de vouloir, je vous dis, judiciariser à tout prix. Et l'exemple que je vous donnais sur les mutations, je veux dire, ça devient invraisemblable. Soit on a la garde, soit on l'a pas. Et de la même façon qu'au départ, on était parti pour généraliser la garde alternée, on voit bien les difficultés qu'il y a de généraliser à tout prix la garde alternée. Dans un certain nombre de cas, c'est la bonne solution et on l'applique. Dans d'autres, ça n'est pas le cas.
Violette Lazare.
C'est assez paradoxal ce que vous dites, parce que quand on est allé chercher un petit peu parmi les amendements qui ont été déposés, et certains réclament un cadre légal beaucoup plus fort sur certains sujets, par exemple le refus d'adoption par des couples de même sexe, ou encore le passage de la majorité sexuelle à 18 ans.
Oui, non, mais il y a à chaque fois dans ces débats un certain nombre d'amendements qui permettent de provoquer le débat. Et vous savez, bon, les convictions qui sont celles de l'UMP, où on a toujours été opposé. Moi, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'étais opposé et je reste opposé au mariage pour les couples homosexuels.
C'est un peu hors sujet là.
Non, mais parce que je considère. Je dis pourquoi je suis opposé. Parce que je considère que l'on peut avancer sur l'union des personnes de même sexe, sur la protection et la défense de leurs droits. C'est pour ça qu'on avait imaginé le contrat d'union civile, mais nous étions défavorables au mariage, parce qu'avec le mariage, il y a l'adoption. Et je fais partie de ceux qui considèrent qu'un enfant a besoin de la double référence. Donc là, l'amendement est revu est revenu vraisemblablement parce que j'ai pas en tête bon les 20 articles dans le détail, mais il y avait sujet à réouvrir ce débat. Puis la réponse est apportée, on passe à autre chose. Mmh. Mais vous savez, un débat parlementaire, pour aller au fond des choses, il y a besoin qu'il dure un peu, parce que c'est comme ça qu'on lève les difficultés, que l'opinion publique réagit, que les professionnels du droit réagissent, les associations réagissent, et puis ben, qu'on crée le débat dans une société. Quoi. C'est pas parce que le gouvernement dépose le texte qu'il faut tout de suite le voter très vite, etc. La démocratie, c'est l'inverse.
On est reparti pour un long débat avec les débats houleux. On est toujours dans le psychodrame du mariage.
Non, on n'est pas du tout dans un psychodrame. On est dans un débat normal à l'Assemblée. Et je veux dire, au nom de quoi...
Il n'y a plus de GPA, il n'y a plus de PMA dans le texte.
Voilà, Dieu merci. Dieu merci, on a évité cela. Mais je pense que le Parlement est dans son rôle, qui est le rôle normal du Parlement, de débattre d'un texte et de le contester, parce que sinon, il n'y a plus besoin de Parlement. Il suffit qu'on prenne les décisions par arrêté ou par décret, et puis c'est beaucoup plus simple.
Allez, autre cheval de bataille pour l'UMP, la grande réforme territoriale que le président Hollande souhaite mettre en œuvre désormais au plus vite, là encore. Levée de bouclier à droite, même si la réduction du millefeuille territorial est toujours au programme de la droite.
Tout à fait, oui.
Confirmé,
oui.
Christian Jacob. Pourquoi dénoncer alors aujourd'hui une réforme bâclée ? Sur quoi porte votre opposition à cette réduction du millefeuille territorial que souhaite le président ?
Tout d'abord sur le fait qu'il n'y a pas de réforme. Pour le moment, la seule réforme, c'est de reporter le calendrier électoral parce qu'il semble gêner le président de la République. Mais attendez, moi je n'ai pas vu de texte. On a été reçu par le président de la République, comme tous les partis politiques l'ont été. Ce que nous lui avons dit, c'est que le report du calendrier ne peut pas se faire pour convenance personnelle, parce que les élections ne conviennent pas, donc on décide de les reporter. Ça peut être la conséquence d'une réforme, d'abord qu'il y ait un texte, que l'on sache de quoi on parle, que ce texte soit débattu, que l'on répartisse les compétences si on en venait à supprimer les conseils généraux, comment sont réparties les compétences entre la région
et les communes. Parce que sur le fond, vous êtes d'accord, hein, sur la division par deux des régions, sur la fusion des départements, sur cette base-là, vous êtes d'accord finalement
étions engagés sur cette réforme avec la création du conseiller territorial qui permettait d'avoir un même élu qui puisse siéger à la fois au conseil régional et au conseil régional. C'était une première étape qui permettait de diviser de manière très importante, diviser pratiquement par deux le nombre d'élus, et qui ensuite permettait d'avancer effectivement petit à petit sur la fusion département-région.
Parce que la gauche a supprimé en arrivant,
et c'est ce que j'ai dit au président de la République, je lui ai dit, monsieur le président, sur ce sujet, en 20 mois, vous avez changé 4 fois d'avis. C'est beaucoup pour un président de la République de changer 20 fois d'avis sur une réforme qu'il estime comme essentielle.
Il vous a répondu quoi ?
Il a changé il a été ennuyé pour me répondre, c'est-à-dire qu'il ne m'a pas répondu concrètement. Tout simplement parce que les faits sont là. Il a commencé en arrivant à supprimer le conseiller territorial que nous avions mis en place pour revenir à la réforme en T, au système en T. Ensuite, il nous a présenté une autre réforme qui est ce système invraisemblable du redécoupage des cantons avec les binômes, c'est-à-dire deux conseillers généraux ayant la même compétence sur un même périmètre.
Mais là, on a avancé. On est quand même beaucoup plus loin dans le schéma.
On a avancé sur rien du tout, puisque on a recréé des conseillers généraux en plus.
Dans l'intention, dans la réforme, là, on a avancé de façon quasi...
Non, mais je veux revenir d'un instant sur le fait de changer 4 fois d'avis. Il a supprimé les conseillers territoriaux. Il a créé...
Ça, vous lui avez dit.
Voilà. Ce deuxième découpage en recréant davantage de conseillers généraux qu'il y en avait avant. Non, mais c'est la deuxième position. Attends. Ensuite, il y a une troisième position, discours de politique générale, où là, le nouveau Premier ministre Manuel Valls indique que les échéances ne changeront pas, les dates d'élection ne bougeront pas.
Et ensuite, accélération.
C'est pas accélération. C'est annonce de la suppression des départements reportée à 2020. Et puis ensuite, le président de la République, à nouveau, dit non, ça ne va pas être à 2020, on va les reporter à 2016. Et puis, 8 jours après, à nouveau, le président de la République dit non, finalement, ce ne sera pas à 2016. 2016, mais peut-être à l'automne 2015.
Voilà, ça c'est le dernier, voilà, c'est le dernier calendrier. C'est le dernier calendrier.
Mais au-delà du calendrier,
si on reporte les élections régionales que de quelques mois.
Mais pourquoi faire? Pourquoi? Parce que ça ne convient pas au président de la République d'avoir des élections en 2015. Mais c'est invraisemblable.
Monsieur Jacob, est-ce que les enjeux ne dépassent pas finalement les affrontements politiciens habituels? Est-ce que sur ce terrain-là, qui est quand même un terrain très 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 parcouru depuis des décennies,
oui, sur lequel vous êtes d'accord sur le fond d'ailleurs.
Voilà, absolument. Est-ce que sur ce terrain-là, il n'y a pas quand même la nécessité d'un tout petit peu de consensus national?
Mais bien sûr, mais qu'il y ait une réforme sur la table. Attendez, avoir un président de la République qui en est uniquement à justifier le report des élections sans être capable de nous présenter un projet de réforme, le projet de réforme.
La droite demande un référendum. Quelle serait la question de ce référendum
d'avoir...
que vous appelez de vos voeux? Quelle question on pose pour un référendum sur la réforme territoriale?
De savoir... c'est le président de la République, François Hollande, Manuel Valls, qui sont aux affaires, qui dénoncent ce système et qui annoncent une réforme, qu'ils présentent cette réforme. Et donc, concrètement, comment on répartit les compétences si on supprime le département? Comment on répartit les compétences entre la région, les communes ou les intercommunalités? Prenons des exemples concrets. L'action sociale, qui est aujourd'hui, c'est ce qu'on dit souvent, qui est une compétence du département. On la renvoie aux intercommunalités. Est-ce que sérieusement, une intercommunalité de 5000 habitants est capable de prendre cette compétence? La compétence des collèges. Est-ce qu'une intercommunalité...
Mais ça ne peut pas être la question du référendum. Non, c'est un débat technique.
Mais c'est pas un débat technique.
La question que vous poseriez à l'électeur français, c'est quoi?
Mais c'est au président de la République. Attendez, c'est lui qui nous annonce une réforme. Et à part dire les élections ne conviennent pas, j'en veux pas.
Mais lui, il parle pas de référendum.
Mais d'accord, mais qu'il parle d'une réforme. Aujourd'hui, on peut faire un référendum pour savoir si on fait des élections en 2015 ou en 2016.
On ne tient pas encore tout à fait la question du référendum, mais si on ne touche pas à la Constitution, comme le promet le président Hollande,
sujet, il est très incertain. Il nous a dit qu'il ne savait
pas. Vous l'avez senti incertain?
Oui, il nous l'a dit clairement, qu'il y avait plusieurs hypothèses qui étaient sur la... C'est pour ça qu'on ressort de ce rendez-vous, on ne sait absolument pas quel projet de réforme il est prêt à poser sur la table. Donc, d'abord, qu'il pose cette réforme. Ensuite, nous, on considère qu'à partir du moment où il a supprimé la réforme qui avait été mise en place avec le conseiller territorial, que ça n'a jamais fait partie de ses projets au moment du débat des présidentielles. Vouloir, en cours de mandat, revenir sur le millefeuille et l'organisation territoriale, c'est une manœuvre électorale. Et si ça n'est pas le cas, eh bien, présentons-la aux Français. On peut le faire de manière détendue. Et sur cette réforme, peut-être qu'on peut trouver des points d'accord. Et à ce moment-là, on peut peut-être être tout à fait favorable, mais qu'on sache s'il veut refaire le conseiller territorial. Eh bien évidemment qu'on sera
peut-être
d'accord.
Peut-être qu'on s'en rapprochera, finalement.
Ben voilà.
Violette Lazare. Mais
dans ce cas-là, ça paraît pas complètement absurde de discuter de la réforme avant d'organiser des élections
échelon. C'est ce que l'on dit.
Mais reporter.
Mais on ne commence pas par dire...
Laisser le temps de discuter, c'est ce que vous demandez aussi, d'ailleurs.
Qu'on sache de quoi on parle. C'est-à-dire que le président de la République, pour une fois, essaie d'être dans un peu de clarté, qu'il nous dise quelle est son idée. On n'en sait absolument rien. Et je vous mets au défi, d'ailleurs, de consulter tous les présidents de partis politiques qu'il a reçus, et vous allez avoir du mal. Bon, peut-être le premier secrétaire du PS parce qu'il est aux ordres, mais encore, je ne suis pas convaincu qu'il sache exactement quelle est... Alors, avant de parler de report des élections, qu'on nous présente un projet de réforme, nous considérons qu'il faut consulter les Français dessus, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne sera pas d'accord. On peut peut-être trouver des points d'accord, bien évidemment.
Bernard Pellegrin.
Est-ce que vous partagez l'avis d'Alain Juppé qui dit un nombre restreint de régions, 8 par exemple, affaiblit l'État, nous fait évoluer vers un système quasi fédéraliste avec des patrons de régions qui seraient de véritables potentats? Est-ce que vous partagez cet avis?
Moi, je crois qu'il y a effectivement un vrai risque. On change de république si on va vers cela. Et c'est une raison supplémentaire pour consulter les Français. Parce que des régions, effectivement, si on arrive à 7, 8, enfin, entre 7 et 10 régions, quoi, en gros, au lieu des 22 que nous avons aujourd'hui, on peut effectivement changer clairement de république, c'est-à-dire d'aller vers des systèmes qui ressemblent plus à l'Espagne, à l'Allemagne ou à l'Italie.
Voilà, ce sera le mot de la fin de cette première partie de Mardi Politique. On se retrouve pour la suite de l'émission. Juste après les infos, on parlera des élections européennes.